Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Là est passé.
C'est pas le temps de faire ça.
Luc, bonjour.
Salut Benoît.
Plafond de la dette passe au Sénat finalement, Sénat américain.
Ben oui, on avait dit qu'on en parlerait aujourd'hui parce que ça passerait fort probablement. Eh ben c'est ça qui est arrivé, c'est passé. La question c'était de savoir combien voteraient en faveur. Alors finalement, il y a 314 personnes qui ont voté en faveur. Et c'est très intéressant, c'est que il y a 185 démocrates qui ont voté pour et 149 républicains qui ont aussi voté pour. Donc c'est vraiment bipartisan, les deux ont voté pour. Qui a voté contre? 46 démocrates et 71 républicains. Et ça, c'est les extrémistes dans chaque parti qui, eux, ne voulaient pas laisser passer ça, qui trouvaient que c'était insuffisant. Et je te rappelle, pendant des années, le relèvement du plafond de la dette était une formalité. Tout le monde comprenait très bien qu'il fallait relever le plafond de la dette. Puis la vraie question, c'était au moment du budget. Et puis si le plafond devait être dépassé, ben on votait. Mais alors, ce qui s'est produit ici, c'est une petite révolution à l'intérieur même des deux partis. C'est-à-dire qu'on a marginalisé les deux groupes extrêmes à l'intérieur de chacun des partis. C'est-à-dire, chez les démocrates, t'as 46 woke, qui sont des gens qui veulent à tout prix avoir des mesures sociales de toutes sortes, puis pas s'en faire imposer, etc. Qui veulent pas négocier, c'est déraisonnable. Et t'as 71 républicains qui font partie du Liberty Caucus, qui sont très proches de Trump, qui sont aussi des extrémistes et qui veulent rien savoir et qui ont été marginalisés. Parce qu'à l'intérieur des deux partis, t'as des gens plus centristes qui se sont entendus. Ils ont dit, on va le faire passer quand même. Et ça, à mon avis, ça peut être le début de la fin pour ces deux groupes extrémistes qui vont, extrêmes disons, parce que extrémistes c'est un peu fort, mais ces deux groupes extrêmes qui vont perdre beaucoup d'influence politique en voyant que, justement, dans les deux parties, t'as des gens qui s'allient au centre pour faire passer des projets de loi.
Donc la dette augmente sans arrêt.
Ben ça, c'est un autre problème. Ça, c'est sûr que la dette augmente sans arrêt. Elle passe à presque 32 000 milliards de dollars. Encore qu'il faut regarder ça en termes de pourcentage du PIB. Et malheureusement, ça augmente aussi. On est à plus de 100% du PIB aux États-Unis. C'est ça qui est important. Mais remarque qu'avec l'inflation, ben, ça fait diminuer la dette de manière relative. Mais je pense que c'est pas nécessairement sain d'avoir des dettes qui sont aussi élevées que ça, parce que il y a surtout quand l'inflation est très élevée et quand les taux d'intérêt sont très élevés, parce que ça signifie qu'une très très grande partie de l'argent du public s'en va à payer les taux d'intérêt de la dette, et ça a pas de sens évidemment.
Bon, c'est quoi ce party en mode d'avis?
Gros party, hein? On n'a pas été invité, par exemple,
non,
c'est un peu dommage.
Non, on l'est jamais.
On le rappelle, qui est ce pays coincé entre l'Ukraine, entre l'Ukraine et puis d'autres pays d'Europe de l'Est. Et alors, il y a la Roumanie, qui est là, etc. Et c'est un tout petit pays qui reçoit 50 dirigeants de 47 États pour le sommet de politique de la communauté européenne. Et c'est un sommet qui se tient dans un château qui s'appelle le château de Mimi. Ça n'a rien à voir avec Walt Disney, au cas où. C'est dans un vignoble, en fait. et on va discuter de questions très, très importantes. On va discuter de la Moldavie elle-même. Est-ce que la Moldavie pourrait rentrer dans l'Union européenne? La Moldavie le désire, mais le problème, c'est qu'il y a une petite région qui s'appelle la Transnistrie, qui est peuplée de gens qui se sentent très, très proches des Russes, qui voudraient, eux, se séparer et qui voudraient former un petit État indépendant russe. Alors, ça pose des problèmes à ce petit État qui est un État indépendant de facto. La Moldavie n'a pas beaucoup d'autorité sur ce petit territoire de la Transnistrie. Donc, on va discuter de ces questions-là. Et on va discuter aussi de l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine. Et on pense que peut-être qu'on pourrait réformer la façon dont fonctionne l'Union européenne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir constamment la règle de l'unanimité sur toutes les questions, ben peut-être que ça pourrait être l'unanimité pour certaines questions, et ainsi de suite. Macron, en tout cas, a introduit ça. Mais pendant qu'il y a cette réunion en Moldavie, il y a une autre réunion très, très importante qui se tient à Oslo. Et à Oslo, on essaie de répondre aux souhaits de l'Ukraine de rentrer à l'intérieur de l'OTAN. C'est ça dont on va discuter. Mais en même temps, il y a toute la question de l'entrée de la Suède qui se pose. Parce que figure-toi qu'il y a une date limite pour l'entrée de la Suède dans l'Ukraine, c'est le 11 juillet. Ça vient vite, le 11 juillet. Mmh. Et la Turquie a toujours bloqué ça en disant mais il y a des terroristes qui sont là. En fait, c'est pas des terroristes, c'est des Kurdes qui sont des opposants à Erdogan, mais ils les ont fait passer pour des terroristes. On veut que vous les expulsiez de là. Il y a eu des négociations. La Suède a reculé sur certains points, etc. Et il y a aussi la Hongrie qui veut pas nécessairement que la Suède rentre à l'intérieur même de l'OTAN. Et on sait bien que la Turquie et la Hongrie sont assez proches de la Russie. Et en fait, forment le maillon faible de l'organisation de l'OTAN. Donc, on va discuter de ça aussi à cette réunion de l'OTAN. On en discute en ce moment même. Comment faire en sorte que la Suède rentre dans l'OTAN? Et puis, comment paver la voie à l'entrée, non seulement de l'Ukraine, mais d'autres petits pays à l'intérieur même de l'OTAN? Donc, c'est les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN qui sont réunis là. Il faut suivre ce que ça va donner comme résultat.
Mais la Suède entre dans l'OTAN sans cigarette, sans cigare, sans rien, là?
Sans rien, si c'est pas extraordinaire. Parce que ils s'en sont presque rendus à 5% de la population seulement qui fume du tabac. Et à 5%, selon l'Organisation mondiale de la santé, un pays qui a moins de 5% de fumeurs devient un pays libre de tabagisme. La Suède serait le premier pays au monde à réaliser ça.
Ouais, c'est
ils sont
ça.
À 5,6, 5. Oui, mais ils chiquent, par exemple.
Ah oui? Ah, je savais pas. C'est pas bien mieux que les gencives, ça. Hein?
Non. C'est pour ça qu'on dit oui, d'accord, ils fument pas, c'est très bien, c'est une bonne chose,
ouais.
Mais ils chiquent.
Mais ils crachent en terre, puis c'est pas mieux.
Quand tu chiques, évidemment, j'imagine que c'est ça qui arrive.
Ouais.
Mais quand même, c'est remarquable parce que il y a 20 ans, il y avait 20% de fumeurs en Suède et c'est beaucoup moins qu'avant. Donc, en Europe, ils sont à 18,5. J'ai regardé des statistiques ici. Au Québec, il y a 12% de gens qui fument cigares, etc. Et 4% qui vapotent. Donc, ça fait 16%. Mais ce qui est décourageant, c'est que c'est les plus jeunes
ouais,
en bas de 25 ans fument plus que les plus vieux.
Mmh.
Là, tu dis quand même, faut être un peu imbécile pour commencer à fumer, tu sais.
Parle-moi-en pas. C'est surtout difficile d'arrêter, tu sais. Puis on peut pas imaginer à quel point c'est difficile d'arrêter.
Ceux qui ont commencé à fumer quand on savait moins, etc., sont plus excusables, tu sais. Mais c'est sûr que c'est très, très difficile d'arrêter.
Mmh.
Mais écoute, je donnerai des trucs à un moment donné, je connais.
Oh non, j'ai arrêté, moi. Ça fait 7 ans. Je fume un cigare à l'occasion, là, mais je fume plus du tout.
Mon père, lui, a commencé à compter le nombre de cigarettes qu'il fumait dans la journée. C'était un paquet. Puis il a diminué d'une cigarette par mois.
Ça
lui a
pris
3 ans. Mais à la fin, il me disait, c'est plus difficile de pas fumer entre les cigarettes que d'arrêter complètement. Puis arrêter complètement comme ça.
Ouais, bravo. Bon, écoute, on se reparle du reste demain, Loïc. Merci.
Ça marche. Salut, à demain.